Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes détendu?
Manuel, c'est le moment de dire bonjour.
Bonjour.
C'est bien, Manuel.
Synchro.
Tiens, on fait des efforts hein, quand même. Hein.
Ouais,
au début, t'étais pas très. Mais maintenant, c'est pas mal.
Ouais.
Les exercices marchent bien. Hein.
C'est pas mal.
Ça va, les gars?
Oui, ça va. On essaie de l'intégrer à la société. C'est pas tous les jours facile, mais on y arrive peu à peu.
Je suis content. Parce qu'aujourd'hui, je sors un peu de ma zone de confort. J'ai
oh là,
pris un
putain.
Sujet.
Bah alors, il y a bien que toi qui es content. Hein.
Voilà. Donc, j'aurais jamais osé trop parler parce qu'à l'époque, je vous aurais dit eh ben, en même temps, tu veux faire des trucs, ben, tu aurais dit de faire des trucs, et puis tu fermes ta gueule, et puis c'est tout.
Exactement, voilà. Avec cette voix-là en plus.
Exactement.
À peu près.
Tu comprends pourquoi je me rue pas dans l'épisode?
Ah oui, non, je comprends. Mais en même temps, tu te rues dans aucun épisode, Manuel. Donc,
non,
c'est difficile
faux.
De voir la différence.
C'est vrai. Mais là, encore moins.
Dernièrement, sur Netflix, il y a eu un documentaire qui a été réalisé par Jonah Hill, qui est un acteur très connu, qui a joué dans Le Loup de Wall Street, 21 Jump Street et plein d'autres films.
Oui.
Et,
tu ne peux pas revenir de New York et dire 21 Jump Street. Hein. Normalement, c'est illégal.
21 Jump Street.
Voilà, là d'accord.
Okay.
Pas la même époque, hein, mais on y va. Ouais. Oui. Je m'attends au pire, en fait.
Le docu est incroyable, puisqu'on apprend que Jonah Hill... voit depuis très longtemps un thérapeute qui s'appelle Stutz, Phil Stutz, qui, bien avant ce documentaire, a écrit un livre qui a été très connu, qui est la méthode Stutz, sur 14 outils à utiliser pour trouver le bonheur qui est en soi et être pleinement heureux dans sa vie.
Mais tu vas nous faire la méthode Ikigai américaine, là ?
Alors, je ne sais pas trop où va partir ce podcast.
Ah,
je préviens d'avance.
Comme d'habitude.
Non, j'ai pris pas mal de notes et tout, parce que c'est assez intéressant. Phil Stutz est un thérapeute à Los Angeles qui exerce toujours à l'âge de 75 ans. Il est aussi conférencier, auteur.
Ah, tu m'as fait peur.
Il est aussi conférencier, auteur, notamment connu pour le livre « The Tools », paru en 2013, et il a passé sa vie à partager ses méthodes pour apprendre aux gens à se connaître, à trouver le courage, la créativité et l'énergie pour vivre pleinement sa vie. Ce livre a été nommé best-seller par le New York Times. Je sais que c'est toujours important. En tout cas,
j'ai l'impression que tous les livres sont best-sellers.
C'est un peu... Alors, j'avoue que depuis que je traîne un peu à New York, j'ai l'impression que il y a un truc très vrai que m'a dit Manuel un jour. Il m'a dit, tu sais, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ben, les New Yorkais, enfin notamment les Américains, ils sont super forts. C'est toujours les premiers de quelque chose. Ils sont toujours nommés par le New York Times, ils ont toujours gagné quelque chose. Il n'y a jamais quelqu'un qui n'a encore rien fait, quoi. Ça,
hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est ouf. Bon, eh ben c'était vachement intéressant ce documentaire.
Ah, je pensais que tu parlais du podcast, finalement c'est allé vite.
Eh ben, bonne soirée. Je crois que c'est moins douloureux que ce que j'imaginais.
C'était intéressant parce qu'en fait, le début du reportage, juste pour vous mettre un petit
t'es
peu...
T'es en train de nous dire qu'il y a un vieux monsieur en Californie.
Ouais. Qui est assis sur une chaise
qui
pendant une heure et demie.
Voilà.
Avec l'acteur Jonah Hill.
Ouais.
Et qui discute ensemble de...
du bonheur.
Voilà.
Et oh, ça va faire plaisir à Manuel, ça.
Et on est sûr qu'il n'y a pas des plaintes pour viol ou je sais pas quoi contre lui?
Non. C'est...
Parce que ça sent pas bon au niveau du portrait robot, là, comme ça.
Il a eu une vie assez tragique,
Phil
Stutz.
En plus.
Enfin, ce que j'ai trouvé cool, c'est que le documentaire, au début, est tourné vraiment comme un documentaire orchestré Netflix et tout. Et à un moment, Jonah Hill s'énerve un peu et dit, bon... J'en ai marre, j'essaie de te parler de bonheur depuis tout à l'heure et tout, mais je l'ai toujours pas dit aux gens. Moi, faut que je vous le dise dans ce documentaire, je suis pas heureux et tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est organisé. Là, derrière, c'est un fond vert, là, j'ai une perruque. Il se met presque à poil. Tu vois le truc où c'est une image.
Le gars, d'un coup,
au milieu du documentaire, ça devient vachement intéressant parce qu'ils sont super intimes. Et t'as vraiment l'impression, pour le coup, d'avoir des vraies clés qui peuvent vraiment te permettre de te poser des bonnes questions. Pour vous dire que ça a pu me toucher, c'est qu'honnêtement, ils sont partis assez loin pour que je puisse me dire, putain, ça, de base, je m'en serais vraiment battu les couilles.
C'est vrai. Et... que pour que Romain se soit dit, mais est-ce que je me connais vraiment?
Bon.
Au fond.
Où sont les clés? C'est un spin-off de Fort Boyard, ton affaire.
C'est un peu ça.
À quel moment arrive le père Fourat?
On commence doucement. On commence par trois aspects de la réalité qui sont impossibles à éviter. Donc, il parle du travail, de la douleur et de l'incertitude. peu importe qui tu es et ce que tu fais, tu ne pourras pas échapper à ces trois aspects. Il faut donc les accepter et apprendre à vivre avec. Il démarre par là. Manuel, je sens que ça va être long.
C'est probable.
Manuel, tu ne pourras pas échapper à la douleur et au travail.
Oui, bah ça, j'ai fait un élément central de ma vie, en fait.
Mais nous, ça nous paraît, je pense, assez naturel. Dans nos parcours, on a tous travaillé, on a éprouvé de la douleur à travailler parfois parce que c'était des choses compliquées ou à surmonter.
Ça suffit, le pays des bisounours. Là, j'ai l'impression qu'il y a des torrents de vaseline qui nous entourent. Les gens ne veulent plus de friction, ils ne veulent plus avoir mal de quoi que ce soit. Tu commences par gueuler tellement t'as mal de l'air qui rentre dans tes poumons. Donc arrête de vouloir fuir la douleur. La douleur fait partie de la vie. C'est exactement comme la mort. S'il n'y a pas de mort... la vie n'a aucun intérêt. Donc il faut avoir mal pour pouvoir profiter des moments où ça va un peu moins mal, en fait.
C'est vrai.
Et comment tu l'apprends?
Mais c'est quand même frappé au coin du bon sens, ce truc.
Mais aujourd'hui...
Mais de moins en moins, Manuel.
Mais non, les nouvelles générations de parents, ils essaient de surprotéger les enfants. On essaie de les protéger de tout, quoi.
Élever un peu à la dure... Surtout pas de contradiction, pas de contraste.
Il faut écouter l'enfant, il faut le laisser s'exprimer d'abord, il ne faut pas lui dire quoi faire. Moi, je ne suis pas forcément contre, hein, tu vois, il y a des trucs que j'écoute.
T'es pas contre ça?
Il y a des trucs que j'écoute.
On va te stériliser.
Non, mais même bien après, tu te rends compte que les gens ne veulent plus du tout de douleur, ils veulent plus du tout de contraintes, de contradictions. Il faut que tout soit smooth.
Il y a un entre-deux, Manuel. Moi, j'ai grandi, je vais pas balancer qui, mais il a enlevé sa chaussure, il me l'a jetée à l'autre bout de la pièce, ça m'a atterrissé dans la gueule quand j'avais 7-8 ans, juste parce que je disais une connerie.
Voilà.
Ouais, mais entre ça et le... T'expliques à l'enfant qui fait une connerie, tu lui apprends des choses et tu lui expliques que là, c'est des choses difficiles mais qu'il va devoir les faire et tout ça. Tu vois, je trouve qu'il y a un entre-deux quand même. Je suis pas...
Il faut une gradation.
Voilà, ok.
Mais, écoute, moi, quand j'étais en cours, le prof se retournait, nous balançait des craies dans la gueule. Il n'y avait pas de tableau Velleda.
C'était le dictionnaire.
Putain, mais t'as grandi à quelle époque? Il est complètement fou.
Non, le prof de français. Un prof de français
menteur,
gothique.
Mais à notre époque, personne n'a jamais été gothique. Mais vas-y.
Je te jure. Il se reconnaîtra.
Il est parti aux États-Unis. Il revient, c'est une intelligence artificielle. Tout ce qu'il dit là n'a jamais existé. Faut le savoir, faut le dire aux gens.
Il prenait les cheveux des temples, comme ça. Toi, t'étais assis, lui, il était debout. Et puis, il tirait comme ça. Je peux dire que t'avais pas envie de le faire.
T'aurais plus de le faire maintenant.
Eh ben, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment, il faut une combinaison entre de l'autorité et de la peur.
Ouais,
c'est ça qui te fait tenir un peu droit quand même.
Non,
sinon, l'être humain va se vautrer dans la facilité et le monde que vous décrivez qui nous entoure en est la preuve.
Oui, je suis pas sûr que ce soit que lié à ça.
Non, mais il faut adapter la méthode en fonction de la personne qui est en face de toi.
Oui, je suis pas trop pour le fait de tirer les cheveux des gens, mais je pense qu'effectivement, il y a un entre-deux.
C'est parce que tu as peur de les perdre ?
Notamment, oui.
Ah. Mais il y a des gens qui ont des cheveux, hein. Plein, beaucoup, trop. Même. Non, ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que, après, c'est personnel, hein, mais je pense que à vouloir installer un modèle éducatif qui fait complètement abstraction du corps et qui ne traite que l'intellect, parce que, regarde, le sport n'est pas valorisé dans l'éducation nationale.
Ouais.
On veut faire de toi une machine à ingurgiter et régurgiter. On ne valorise pas tellement la créativité, on valorise le fait que tu ingurgites de la connaissance et tu es capable de la régurgiter au moment où on te le demande. Il y a une abstraction complète de l'effort, la ténacité, l'échec, le fait de réessayer, se relever, etc., etc. On l'a aussi enlevé dans la façon dont on éduque les gens qui sont sortis du système scolaire ou de toute façon tous les majeurs de notre pays. C'est l'arrêt du service national. C'était le rapport à l'armée, le rapport à l'autorité, qui met tout le monde sur un plan d'égalité, qui nous permettait au passage de recenser le niveau d'analphabète dans le pays, et qui faisait en sorte que tout le monde était sur un plan d'égalité et qu'il fallait créer cohésion et avoir un effort et intellectuel et physique. Mais à force, on fait quoi ? On fait des humains sous cloche, en fait ? C'est quoi ? Ils se prennent pour des fromages, les mecs ?
Bon, les méthodes de Phil Stutz vont peut-être paraître un peu trop imagées, trop gentilles pour Manuel, mais je trouve qu'elles marchent bien. Il explique que pour apprendre à vivre avec ces trois aspects de la réalité, il prend l'exemple d'un collier à perles. Chaque perle est une action de notre journée et chaque perle cache une petite tache noire, quelque chose qui n'a pas fonctionné, du négatif. L'idée étant d'aller toujours de l'avant pour construire son collier de perles.
C'est un peu...
J'ai prévenu.
Non, mais là, c'est un épisode de Choupi.
C'est ça. c'est vraiment... C'est gentil, quoi.
T'as fait attention à ton collier à perles aujourd'hui, Manuel.
Je trouve ça intéressant dans la façon d'expliquer qu'en fait... En fait, je trouve que cette image, elle est cool pour juste dire que l'échec et la douleur fait partie de la réussite. Et juste pour le comprendre et l'imager... Mais quand
t'as pas besoin d'imager ça.
Mais c'est les deux faces de la même pièce. Je vais t'en lâcher deux, trois perles, moi, tu vas voir. Ça va aller, quoi. C'est quoi ces méthodes d'enfant, là?
Je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est pour ça que je vous en parle. Moi, j'ai pas dit que c'était la vérité. Enfant, hein.
Et sincèrement, faites lire Freud au gamin. Vous allez voir, c'est plus direct comme méthode.
Si c'est pour créer que des Manuel Diaz, on va pas s'en sortir. Hein.
Non, mais il y a d'autres variantes.
Ah oui. Mmh. Ah oui, mais je sais pas si j'ai envie de les rencontrer.
Mais non, c'est
bon.
C'est le Disneyland de la psychanalyse, ton affaire.
Attends, mais qu'est-ce que tu fais avec ton collier à perles? Donc j'ai un collier à perles. Okay, qu'est-ce que
j'en
fais?
Un collier à perles. Tu imagines que chaque jour, t'ajoutes une perle.
Mmh. Tant que chaque tous les jours, t'enfiles des perles.
Ça va être lourd.
Et que chaque perle est pas exceptionnellement pure. Qu'il y a toujours un petit truc à l'intérieur, mais c'est pas grave. Un petit truc de merde, une petite tache noire sur ta perle. Mais que l'idée, c'est juste d'aller de l'avant. Et de vivre avec le fait que t'es plein d'échecs derrière toi et que ça fait partie de la suite.
Je comprends même pas à quoi elle me sert.
Ça. On passe à quelque chose qui est plus dans la réalité.
À la fin, t'as un collier tribal avec des autres poulets et on te fait croire que c'est des perles.
Bon, t'es sûr que t'as compris ce qu'il disait?
C'est un arnaqueur total, ce gars.
Vous regarderez le reportage. Quatre étapes, cette fois-ci, qui sont plus ancrées dans la réalité.
Je crois que je pourrais être thérapeute, en fait. J'ai raté ma carrière.
Mais il est jamais trop tard.
Ah, putain, c'est génial.
Il a bientôt 80 ans, le gars.
Imagine
d'après ce qu'il disait.
Que tu as des pins.
Oui, c'est ça.
Chaque jour, tu rajoutes un pins.
Après, juste pour remettre dans son contexte, nous, on va bien, on est entouré, etc. Il fait un métier où, dans le documentaire, il explique comment est-ce qu'il s'adresse à des gens qui sont suicidaires, qui vont très mal dans leur vie, etc. Il est obligé de repartir aussi d'un truc.
Son patient, là, il est acteur avec une carrière qui a l'air d'aller. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas malheureux.
Il parle de ses méthodes. Il parle juste des méthodes qu'il a utilisées dans sa carrière en tant que thérapeute pour aider les gens à aller mieux.
Mais tu me dis que cet homme sauve des gens du suicide avec des colliers à perles imaginaires.
C'est pas que ça. Ça fait partie de ces façons
d'imaginer. Je ne peux pas te croire.
Bon, on passe aux quatre étapes qui font que les gens ont du succès et que ça n'a rien à voir avec leur intelligence ou le fait qu'ils sont meilleurs que toi.
Ah.
Pour accepter ça. La première, c'est être confortable dans l'incertitude. Ça, j'aimerais en parler avec vous avant de vous dévoiler les trois autres.
Ouais.
Je trouve que c'est un truc... J'ai l'impression, en tout cas, que c'est rare. Je vais me vanter deux secondes.
Pour changer.
Non, mais...
On n'a pas l'habitude.
Précise quand tu le fais pas. Hein.
Autour de moi, beaucoup de gens me disent « Ah, mais toi, t'as jamais trop peur. Tu peux prendre ton téléphone, appeler une personne que tu connais pas. Puis c'est pas grave, tu t'en fous un peu du regard des autres. Tu peux faire des trucs un peu bizarres et puis tu t'en fous de ce que vont penser les autres. » Et je sais que c'est vraiment un vrai point positif, je trouve, que j'ai dans mon caractère. Et je pense que ça fait partie de ce premier point qu'il faut être confortable dans l'incertitude. Tu sais pas trop ce qui va se passer, ce que vont penser les gens de toi, etc. Mais je pense vraiment que c'est un premier point qui fait que tu peux très vite te démarquer en société et faire beaucoup plus de choses dans la journée sans trop réfléchir aux conséquences. Il faut accepter que tu vas faire des trucs qui vont peut-être un peu puer à la fin, mais au milieu, il y aura 2-3 trucs qui seront pas mauvais et que tu n'aurais jamais pu faire sans avoir eu ces échecs à côté, quoi.
Mais c'est un peu ce qui me dérange avec ce type de contenu et de conseils, c'est qu'en fait, c'est logique. Après, c'est pas parce que c'est logique et que, comme tu le disais tout à l'heure, Manuel, c'est du bon sens, que les gens le savent forcément et que les gens l'appliquent forcément. Vouloir vivre dans la certitude, dans la quête de certitude, c'est ne pas vivre, en fait. Parce que ça n'existe pas.
Ils veulent tout contrôler, il y a des personnes qui veulent tout contrôler.
Tu peux pas être certain, donc tu chasses un truc que tu n'obtiendras jamais et qui va te retenir toute ta vie de faire les trucs que tu devrais faire ou que tu as vraiment envie de faire. Donc c'est certain que tu peux pas vivre dans la certitude, sinon tu ne vis pas.
Deuxième point.
C'est comme si des gens... ne voulaient pas avoir d'ambition dans leur vie, ne voulaient pas réussir, ne voulaient pas se battre pour atteindre leurs rêves, quelle que soit la forme de réussite que ça peut prendre pour chacun d'entre nous, sous prétexte qu'ils avaient l'angoisse de peut-être rater leur mort.
Mais j'ai l'impression que c'est commun. Non, mais
donc
attends,
les mecs se disent hop, fous-toi dans les buissons, parce qu'on sait jamais.
Mais il y en a énormément.
Réussis pas ta vie, tu pourrais rater ta mort.
Combien il y a de personnes qui disent « Oh, cette idée-là, j'hésite à la partager parce que si elle est mauvaise, j'ai pas envie de me faire virer. » ou...
Mais toi, t'as une qualité qui n'est pas extrêmement répandue et qui t'aide à ça.
T'as un très beau collier à perles.
D'abord, au-delà de ton collier, c'est que tu n'as pas le sens du ridicule. Et
c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est vrai.
Mais c'est une qualité.
Oui, c'est vrai.
Et je pense que tu t'en fous, en fait. T'essayes, quoi. C'est pas très grave, en fait.
Moi, ça me touche quand je connais bien les gens. Quand j'ai envie de bien faire avec des proches. Mais franchement, c'est 3 personnes dans ma vie. Le reste... Là, je me voyais, enfin, pour les premiers moments aux États-Unis, je parle pas très bien anglais, machin et tout, mais je vais t'organiser des déjeuners avec des gens qui parlent que anglais. Et je suis trop content. Je suis au milieu et je suis celui qui parle le plus. Alors peut-être qu'à la fin, ils vont tous
mais
se
tout
dire...
Seul.
Mais ils comprennent pas, par contre.
Non, les autres, ils parlent d'autre chose.
Mais presque en sortant, je me dis, mais tu sais quoi, je m'en fous. Je les reverrai pas. Moi, je me suis entraîné, je parle anglais, je les ai écoutés. Enfin, je fais un truc, quoi.
Alors, même si tu les revois, ils t'auront oublié.
Je reste
t'avais pas comme un bruit de fond, toi, pendant la conversation. Il y a un gars qui essayait de dire des trucs, je comprenais pas.
Et t'as un pote qui m'a dit, mais je comprends pas, tu vois ces gens que tu connais pas trop, ils parlent qu'anglais, mais vous parlez de quoi? Je lui dis, mais de plein de trucs. Je lui demande de me raconter ce qu'il fait, de ses objectifs, de ce qu'il va faire la semaine prochaine, et puis dans son travail, ce qui est le plus difficile, et puis quoi. Enfin, j'essaie juste de faire des trucs pour me dire que...
Quel cauchemar, je déteste ça.
Mais là où je voulais en venir, c'est que je pense que quand dans ton métier ou dans tes objectifs, tu dois aller vers les autres, ce qui est un truc que je n'avais pas moi naturellement...
On déconne.
Tu... c'est un scoop, hein. Eh bien, tu as un avantage par rapport aux autres quand tu... dédramatise cette question. Et à partir du moment où tu comprends que il y a pas grand chose de grave et qu'il peut pas t'arriver grand chose de très très grave dans cette affaire, bah tout va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est un déclic qui est dur à provoquer.
C'est vrai.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Deuxième étape. Qui font que les gens qui ont du succès, parfois ça n'a rien à voir du fait qu'ils soient plus intelligents ou meilleurs que toi, prendre des risques, alors attention, mais prendre des risques avec la foi que ça fait partie d'un plan plus grand que le risque en soi. Prenez des risques dans des petites étapes plutôt que de vous dire « Ah là, j'ai une énorme décision à prendre, il y a un truc que je peux faire et je pourrais pas revenir en arrière. » En fait, le fait de prendre des risques, c'est juste être intimement convaincu qu'il faut prendre des risques, mais... plusieurs fois par jour, sur des petites étapes, plutôt que de rester un peu dans sa zone de confort à chaque fois, même quand les décisions pourraient paraître faciles, bah, allez tenter des choses que vous n'avez jamais faites, même sur des petits choix.
Et demain, je mange un truc que j'ai jamais mangé.
Mais tu sais que c'est un exemple, mais t'as des gens, c'est vrai, t'as des gens, ils vont tous les jours au même restaurant parce que c'est en face, ils parlent tous les jours à la même personne parce qu'ils sont rassurés, ils se disent « Mais au moins, je sais ce que je vais manger, je sais... » Mais ça fait partie...
Ou qu'ils sont mariés avec.
Aussi.
Moi, je suis comme ça. Hein.
Toi, tu parles avec personne.
Ah oui, c'est vrai.
Tu considères que tu prends pas de risques
Je suis un peu... je suis souvent par défaut. Mais du moment que je le suis pas dans mon travail, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, si je parle avec très peu de gens et qu'au resto, je prends quasiment toujours la même chose, vraiment, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fous.
Ok. Manuel, tu m'avais partagé il y a pas longtemps, enfin s'il y a un petit moment maintenant, tu l'avais déjà dit d'ailleurs dans un podcast, je trouvais ça super. Ah. À chaque fois que je te voyais prendre des décisions qui me paraissaient vraiment importantes, risquées et tout ça, tu me disais bah regarde derrière, la porte elle est toujours ouverte. Oui, ça te paraît fou, oui, cet engagement ou ce que je fais là, ça te paraît fou, mais si je veux demain contrer ce truc-là et revenir en arrière, je peux. Ce qui serait vraiment risqué. C'est d'ouvrir une porte, qu'elle se referme derrière toi et que tu puisses plus du tout la réouvrir. Je trouvais cette image...
La seule question pour dédramatiser le risque et pour t'habituer à vivre dans le risque, parce que la vie, par définition, est risquée. Donc, c'est un risque permanent, en fait. C'est juste de te dire, est-ce que le choix que je suis en train de faire est irréversible ou pas? Et en te posant cette question, tu te rendras compte qu'il y a très, très, très peu de choix que l'on fait qui sont irréversibles. Donc à partir de ce moment-là, ben, en fait, tu te rends compte que ce que les gens appellent du risque n'est pas véritablement du risque.
Troisième point.
Je sais pas pourquoi tu me fais un doigt.
Parce que je me suis dit que c'était pas irréversible.
Ah, ouais, c'est pas mal.
Donc je prends des petits risques comme ça, je tente des trucs. Hein. Moi, ouais, je suis pas habitué à ce truc de colis et tout, moi, donc je fais des choses.
C'est autour du cou qu'il faut le mettre, Léo.
Ah, putain.
Assumez qu'il va y avoir des conséquences. Tenez-vous prêt aux moments difficiles qui feront partie de cette aventure. Oui, vous allez prendre des risques, mais oui, il va y avoir des conséquences.
J'aurais peut-être dû lire ça avant de faire un doigt d'honneur.
Voilà, par exemple. Mais parfois, c'est difficile, je pense, d'assumer pleinement le risque que tu prends. Non, de faire de la peine à telle personne, le fait que cette personne la soit contre, etc.
Ces éternels indécis, en fait, c'est ce truc où, en fait, les gens... beaucoup disent qu'ils comprennent le choix, mais en fait ils ne le comprennent pas. Le choix est un truc qui est pourtant simplissime et qui n'est pas intégré. C'est-à-dire qu'on explique dans le choix que tu as piste A ou piste B, et moi je préférais qu'on explique que le choix c'est abandonner une des deux pistes.
Oui, bien sûr.
Et la nuance est fine, mais elle est importante.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de gens qui disent. Ouais, bah en fait, je vais prendre un petit peu de A et un petit peu de B, et puis je vais faire mon mix entre les deux. Mais non, mon gars. C'est comme les gens qui vont au resto qui disent « Eh, arrivé à la moitié du plat, on s'échange les assiettes. »
Je déteste.
Mais ferme ta gueule.
Ah, ça, je ne l'ai jamais fait encore.
Ah si, il y en a plein des comme ça.
Bah, parce que toi, tu prends A et B au resto, donc
c'est vrai que pas besoin. C'est la seule activité où
je... Si tu ne veux pas choisir travail dur pour avoir les moyens de ne pas choisir... donc, auquel cas, bah, tu peux prendre plein de trucs et puis tu verras ce que t'en fais. Et si tu dois choisir, assume pleinement ton choix.
Ouais. Et les conséquences.
Bah oui.
Et dans le business, on en parlait dans le dernier podcast qui comparait le business aux US avec le business en Europe. C'est vrai qu'il y a. Enfin, j'arrive pas à me dire qu'on pourrait exercer dans plusieurs domaines en étant bon dans plusieurs domaines. Nous, quand on parle de ça, on se dit qu'il faut faire un choix. Moi, j'en ai fait un récemment. Je me suis concentré de nouveau pleinement au métier de création en tant que créateur, etc. Alors que j'ai essayé d'apprendre au même moment toute la partie business, communication, etc. Au sein d'Influx. Donc, j'ai refait un choix parce que je faisais deux choses en même temps. Et aux US, quand j'en parle, ils me disent « Oh ben non, ben, il fallait juste mettre des personnes pour faire ça. » Et puis, ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent tout décupler et tout faire à fond. Alors qu'à la fin, quand tu regardes réellement, hein, parce que pas juste tu regardes la photo de couverture sur Wikipédia, là, c'est des génies. Quand tu grattes, bah, les chiffres sont pas si fous, ce qu'ils font, c'est pas si incroyable, c'est juste qu'ils glorifient un peu l'image pour essayer d'en faire un truc fou, mais ils font plein de petits trucs pas fous, quoi.
Ils communiquent très très bien, ouais. Ils positivent ce qui doit l'être, ils apprennent de ce qui a pas marché, puis il y a un truc qu'ils savent beaucoup mieux faire que nous, c'est qu'ils savent scaler, mais ils ont aussi... un coût et un droit du travail qui est beaucoup plus adapté à ça.
Mmh, oui.
Il y a beaucoup plus de souplesse, de modularité, etc.
Bah, tu l'embauches deux jours, tu le vires, c'est sûr que c'est compliqué de le faire ici.
Il y a même un marché du métier intermittent quasiment, en fait, des fonctions d'intérim. Mmh. En fait. Il y a des tonnes de startups aux US qui ont des CTO deux jours par semaine. Mmh. Le mec, il est CTO pour trois boîtes et il fait deux jours là, un jour là, etc. etc. Et oui, parce qu'il travaille plus que cinq jours.
C'est un plan de carrière pour moi, ça, je pense. Faire ça.
Et donc, le marché n'est pas du tout structuré de la même façon. Donc, à partir de là, forcément, ça crée plus de fluidité et plus de capacité à prendre des risques.
Bon, en tout cas, pour clôturer ces quatre étapes qui vous permettent de mieux comprendre le succès que peuvent avoir certains, la quatrième, c'est continuer à avancer, même si les résultats sont négatifs. Parce que cette étape-là va vous permettre de faire un loop et de revenir avec le fait d'être confortable dans l'incertitude. Ça va avec. Et c'est ce qui fait que tous les jours, vous continuerez d'entreprendre.
Des pincettes quand même, hein, parce que...
Ouais, je suis d'accord.
Il y a un moment, il faut peut-être aussi s'arrêter, hein.
C'est-à-dire que c'est franchement la différence entre l'obstination et la persévérance, en fait. Et...
Ouais, la connerie, elle est pas loin, quoi.
Voilà.
Ok, de t'entêter un truc qui...
Disons que c'est pas parce que tu descends que tu vas remonter un jour.
Mmh. Comment tu sais ça?
C'est l'injustice.
Oui, mais quand t'entreprends un projet, quelque chose qui te tient à cœur et tout, à quel moment tu peux te dire « Tiens, je m'arrête » quand t'as cramé, j'en sais rien, la trésor ou le capital que t'avais foutu dans la boîte pour te dire que je lance ça? Comment est-ce que tu peux te définir?
Bah, il faut te fixer des milestones, en fait. Il faut te fixer des étapes en te disant, bon, ben voilà, moi, je veux arriver à ce succès avec ces moyens-là. Mmh. Okay. Je veux dégager tant de profits sur telle activité en ayant injecté tant d'argent. Si tu es à 3 km de tes objectifs en ayant cramé tous tes moyens, bon, ben, il faut peut-être se poser des questions. Si tu es à 100 mètres, ça vaut peut-être le coup de continuer. Donc, c'est toujours pareil. Il faut objectiver ces décisions avec des chiffres. Et puis, il faut souvent, au moment où on démarre des projets, poser des milestones comme ça. Puis, tu les reverras peut-être en cours de route. C'est pas très grave. Mais en tout cas, tu as des éléments qui te permettent de mesurer où tu en es par rapport à la vision que tu avais au début. Des fois, tu les exploses, tes chiffres. Tu les dépasses complètement.
Ouais, tu t'en
penses. Ben, très bien. Ouais. Tu revois ta vision, t'adaptes. Okay.
Bon, ça me fait plaisir. Je vous ai un peu raccroché au sujet.
Ah bah c'est sûr qu'on partait de si bas.
Ouais, et ben,
on a bien remonté.
On est reparti. On parle un peu de force vitale.
Ah, il vous faut des chaussures qui courent vite.
Pour prendre du plaisir dans notre quotidien, Phil Stutz nous parle de la force vitale, celle qui fait qu'on se lève, qu'on fait des choses et qu'on vit. Pour parvenir à cela, il illustre la force vitale avec une pyramide découpée en trois phases. Le corps, les gens et le soi. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout, je continue de développer.
Ouais, vas-y, continue.
Ok.
En fait, Romain est en train de découvrir un abécédaire de la psychanalyse.
Bon, moi, c'est la première fois que je regarde un documentaire entier sans m'endormir sur ce sujet. J'ai pas honte de le dire.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Tu devrais.
La première étape est de travailler sur notre corps, sans quoi les deux autres phases sont impossibles à déclencher. Apportez une importance capitale à votre sommeil, surveillez votre alimentation, ayez une activité physique quotidienne. Phil Stutz n'a pas peur de dire qu'une personne en dépression peut voir son état s'améliorer de 85% en activant cette première phase. Maintenant que vous savez ça, est-ce que vous considérez que vous travaillez sur votre corps?
Bah oui, je me fais assez chier à la salle comme ça pour dire non.
Mon corps est un temple.
Toi, c'est sur la bouffe, Manuel, surtout. Franchement, t'es un monstre pour moi.
Mon corps est un temple. Tu sais que ça se visite?
Non.
Oh, putain. Je vous laisserai sur les horaires d'ouverture. Moi, je sais pas.
Tu me fais peur de faire les ventes.
Excuse-moi, mais la phrase, elle faisait vraiment porno des années 90. Hein.
Ah oui?
Mon corps est un temple.
Bah non, bah enfin, bah oui, je veux dire, il n'y a rien qui existe sans que ton corps aille bien, en fait.
Ouais, mais donc, ce qui est chiant, c'est qu'aujourd'hui...
Ou le mieux possible, en tout cas.
Tu le vois à l'arrache dans des publicités, manger 5 fruits et légumes, machin et tout, mais on se rend pas compte à quel point c'est important, en fait.
Bah, enfin, il suffit de faire le test. C'est-à-dire, on revient exactement à la même chose que le point d'avance, c'est-à-dire, bah, fais-le et regarde les datas, tu vas voir.
Mais alors, moi, ce qui m'embête, c'est quelqu'un qui se rend pas compte que le corps, donc sa santé, est important, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être sauvé? Tu vois, ça me paraît, encore une fois, être du bon sens. Après, c'est extrêmement difficile à appliquer. Mais le savoir, ça me paraît quand même logique.
Oui, mais il y a des gens qui le savent et qui, pour autant, vont manger des frites à midi. Le matin, ils auront fait la tartine de Nutella.
Et ça, c'est la différence entre le savoir et la pratique.
Électrique. Ouais, mais pour eux, ils sont convaincus. Ils disent, bah, je suis dehors tous les jours, ça va.
D'accord,
je...
mais le fait de te mais dire, ça va rien changer.
Au fond d'eux, ils savent bien que ça va pas.
C'est ce qui m'embête avec ce truc de développement personnel, c'est qu'en fait, c'est des trucs qu'on sait déjà très bien.
Alors moi, je pense pas que ça soit du développement personnel. Je pense vraiment que le mec a pris des bases de psychanalyse, parce que sa pyramide en trois, t'es là, tu te dis, mon Dieu, mais Freud doit se retourner dans sa tombe. Mais enfin, je sais pas, mais c'est basique. Et au fond d'eux, je pense que c'est Tu sais très bien quand tu fais un pas de côté que tu fais pas exactement ce qu'il faut, en fait.
Ça me fait penser à Conor McGregor qui parlait des petites victoires justement dans Netflix. C'est exactement ce qu'il disait. On lui avait posé la question de pourquoi est-ce qu'il avait perdu un combat important. Il a dit parce que je devais m'entraîner, puis je me suis dit finalement pas aujourd'hui, demain. J'ai été invité chez des amis pour déjeuner, j'ai dit ok aujourd'hui. Et puis c'est toutes ces petites défaites qui ont fait qu'à la fin j'ai perdu. C'est ouf de le reconnaître.
Ça s'appelle la discipline, en fait.
Bon, le deuxième, ça m'intéresse vraiment.
Ah, parce que celui-là, il t'intéresse pas
on
vraiment.
On passe, si, mais là, je pense qu'il va y avoir des contradictions. Passons au centre de la pyramide, les gens. Quand on se sent mal ou faible, on a tendance à limiter nos contacts sociaux. D'après Phil, les relations humaines sont des ancrages importants dans la réalité. Peu importe ce que vous en pensez, et même avec les gens les plus inintéressants qui soient, vous verrez qu'un simple échange social vous aidera à vous sentir mieux.
Ou pas?
Ça dépend avec qui, hein. En fait, je sais ce qui nous embête depuis le début, c'est que tout ce que tu racontes, il parle à un dépressif.
Oui.
Et nous, on n'est pas dépressif, donc en fait, on n'a pas du tout... ça nous parle pas, tout ça.
Je trouve ça intéressant, parce que quand il y a un truc qui va pas, quand tu travailles dur sur un sujet, que t'as envie d'être au contraire tout seul dans ton coin et tout, mais il y a des gens, aujourd'hui, avec Uber Eats, ils sortent plus du tout de chez eux, tu vois. Et je pense que juste avoir un contact social quotidien, c'est un truc qui aide. C'est comme, je trouvais ça très con, pardon, comme conseil, mais je l'ai appliqué une ou deux fois et ça marche vraiment. Quand vraiment ça va pas, qu'il se passe une merde ou autre, tu te forces à sourire.
Oui.
Et c'est un truc à la con, mais je trouve que ça dégage un truc, quoi, tu vois.
Vas-y, Manuel.
Bah, ça fait de toi le ravi de la crèche, quoi, en fait.
Et tout seul, tu vois, mais je trouve ça... Enfin, je sais pas.
Non, mais non. Si, ça, je pense que ça marche vraiment. Mais encore une fois, ça va pas très bien, parle à des gens... C'est basique. On est des.
Nous mais je pense qu'on dit ça parce que pour nous, ça va.
Non, mais pas du tout.
On a tous eu des moments où ça allait moins.
Bah, bien sûr.
Quand ça va pas
très bien, lis les grands auteurs, voyage, va voir la misère à travers le monde. Quand tu vas rentrer, ça ira mieux. Hein.
Mais même, nous sommes des êtres sociaux, on le sait tous. Quand tu parles à personne pendant longtemps, tu sais très bien que ça te manque. Donc les gens le savent en fait.
Bah, t'es la seule personne que je connaisse qui a adoré le confinement et qui rêve qu'il se prolonge pour longtemps.
Moi par contre ça me manque pas, mais je suis bien conscient de ça.
Oui.
Pour moi c'est logique, parle à ChatGPT.
Bon, on termine par la troisième et dernière étape de la pyramide.
Oui, j'ai hâte.
Le soi, je pense que c'est ce qui me demande le plus de travail, se connecter à soi, s'écouter, vivre des moments seuls avec un exercice que Stutz appelle l'écriture automatique. T'en as parlé Manuel dans ta dernière newsletter. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête une fois par jour. C'est un excellent moyen de faire la rencontre de votre inconscient. Cet exercice régulier vous permettra ensuite d'avoir des prises de conscience étonnantes.
Alors moi, j'ai parlé du journaling.
Oui, c'était pour te lancer une perche.
Mais c'est gentil, hein. Mais
il te la lance carrément.
C'est pas
dans le temple.
C'est un peu dangereux. Hein.
Ah oui, quand même.
De lancer une perche.
Mais non, moi j'ai parlé du journaling, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'écriture automatique. L'écriture automatique, tu écris vraiment les trucs qui te passent par la tête, ça peut n'avoir aucun sens.
Okay.
Donc c'est vraiment, c'est de la gerbe de mots, okay. En fait.
J'ai pas essayé toutes ces méthodes, hein, qu'on soit bien... Okay.
Moi je suis intimement persuadé que le journaling, parce que ça a été étudié scientifiquement, et je cite et les études et les chiffres dans ma dernière newsletter, si vous ne l'avez pas reçu, la bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez plus jamais la recevoir. C'est le concept. Et donc,
on est payé pour cette pub là parce que tu te mets bien, mais nous ça nous concerne pas.
Tu fais une newsletter, toi?
Non.
Et ben voilà.
Je fais plein d'autres trucs. Vous pouvez me contacter.
Oui.
leoduff@influxcrew.com.
Tout à fait.
Si vous avez de l'argent.
Aussi.
Beaucoup.
Et en général, c'est moi qui réponds.
Ça m'arrange.
La connexion à soi, machin. Bon, ça, je sais pas. On y met les mots qu'on veut. Mais je trouve que les gens qui ont du mal à être seuls, c'est en général le signe d'un truc qui ne va pas.
Okay. Alors, 100%.
Parce que si déjà, tu as peur... Parce que être seul, c'est quoi? C'est se retrouver avec toi. Mais c'est exactement comme si... quand tu es tout seul, vraiment, tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas raconter l'histoire. Tu ne peux pas storyteller le truc qui t'est arrivé aujourd'hui, qui s'est pas exactement passé comme ça, mais que tu te plais à storyteller à l'apéro avec tes potes, etc. etc. Non, t'es seul. La vérité est là, elle t'entoure, et tu ne peux pas fuir. Mais les gens qui fuient face à la réalité, en s'entourant, en s'encanaillant, voire en s'enivrant avec une surconsommation des relations sociales, c'est surtout des gens qui ont peur de se regarder nu.
C'est comme regarder YouTube 24/24. Au bout d'un moment, tu détestes ta propre compagnie, en fait, et c'est qu'il y a un problème.
Et tu n'as pas envie de regarder la réalité, parce que YouTube, c'est pas la réalité.
T'as appris des trucs dans ce docu ou pas?
J'ai appris à mettre des mots sur des trucs que je comprenais pas trop ou que je réalisais pas trop. J'ai pas appris des choses de façon factuelle, mais simplement, moi, ça fait vraiment... Enfin, je pense que ça fait peut-être à peu près un an que je travaille de plus en plus juste sur moi. À me dire, attends, ça, avant, tu le faisais pour le folklore, pour plaire aux autres, mais est-ce que toi, t'étais plus heureux dans ces moments-là ou plus heureux dans des trucs où t'étais tout seul, tu lisais, etc. Là, par exemple, je sais que ça fait maintenant un moment où je sais que lire 15 minutes, ça me procure plus de plaisir que de traîner sur des réseaux sociaux pendant une heure. Même si j'ai l'impression de faire 10 milliards de trucs sur les réseaux sociaux. C'est plus difficile de lire 15 minutes tous les jours que d'être sur les réseaux. Mais juste le fait de réaliser ça, je sais pas, j'ai mais moi, je suis d'une génération où on m'a, enfin, en tout cas, moi, dans ma famille et dans mon éducation, on m'a pas donné le goût de la lecture. J'ai très peu lu, même les BD, je les évitais. Enfin, tu vois, j'ai réalisé des choses très tard, vu que j'ai quitté les cours aussitôt. Donc, c'est ce qui m'a
progresse.
Plu, en fait.
On est à la fin de la bibliothèque rose, on va passer à la verte.
Mais justement, tu parles de lecture. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à lire que ce que tu nous racontes de ce
là, je suis parti d'un docu Netflix pour accrocher le grand public qui connaît Netflix, etc. Et ensuite rentrer un peu plus
est-ce
en profondeur.
Est-ce que tu conseillerais de regarder le docu?
Oui.
Oh putain.
Oui. Oui, parce qu'il y a tellement de merde sur Netflix.
Je suis pas sûr qu'on ait donné
envie.
Mais
non, mais parce qu'il y a tellement de merde sur Netflix que honnêtement, comparé à
une
tout ce qu'il
plus.
Y a. Mais non, 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 je te jure que non. Je te jure que non.
Non,
je trouve
sinon,
ça très cool.
Sinon, regardez Tapis. C'est une, c'est une autre forme de psychanalyse.
La série Mercredi, j'ai adoré, c'est très bien.
Voilà. Non, 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 vraiment, vraiment.
Par contre, je me demandais, depuis que tu es rentré, pourquoi ce collier de perles? J'ai enfin la réponse.
Non, mais en fait, j'ai l'impression que. Je vais pas le voir, donc je pourrais pas confirmer, mais de ce que tu nous dis, c'est même moins bien qu'une formation de Tony Robbins qui est aussi dispo sur Netflix.
Oui, c'est moins bien. Parce que pour moi, ça me correspond moins. Mais des gens qui ont besoin de comprendre des choses plus en douceur...
Lisez des livres.
Ben ouais.
Si tu veux changer ta vie, lis des livres. Regarde pas des docus Netflix.
Déjà, dis-toi que sur Netflix, ça a été digéré et ça a été fabriqué pour que ça parle au plus grand nombre.
Charcuté.
Ben, j'ai commencé à lire le...
C'est la différence entre Netflix et TEDx.
Bien sûr.
Ou TED. Parce que... TED, ils sont clivants et ils savent qu'ils n'ont pas la pression de l'audience et qu'il peut y avoir un hyper spécialiste qui va faire un talk 20 minutes. De toute façon, c'est la règle pour tout le monde. Et au pire du pire, tu n'as rien compris pendant 20 minutes et t'attends le mec d'après, en fait. Et tu passes à autre chose. Et ce n'est pas très grave si tu n'étais pas capable de comprendre. Netflix, ils n'ont pas ce luxe-là. Il faut que ça plaise au plus grand nombre. Parce que quand tu payes une prod, voilà. Donc au final, tu as quoi? Bah, c'est comme dire que la purée mousseline, c'est de la purée.
C'est un peu vrai.
Bon, on peut retrouver à la pyramide.
Il est peut-être très... Oh non, pas de pyramide. Hein. C'est bon, laisse-moi tranquille.
Au temple.
non,
c'est bon, on est complet.
Merci les gars. Salut.
Bye bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.